Salut à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Point de vue. Aujourd'hui, la Société historique de Saint-Boniface confirme la présence de tombes oubliées dans la forêt Lemay à Winnipeg. Elle aurait abrité le cimetière d'un ancien orphelinat des Sœurs de la Miséricorde.
Les recherches qui ont été entreprises à date de notre point de vue n'ont pas été exhaustives.
Une expatriée ukrainienne s'inquiète des tensions croissantes entre l'Ukraine et les États-Unis.
Très important de montrer aux gens comme Poutine, comme Trump, qu'il y a d'autres mondes qui vont se battre pour la liberté, pour la démocratie et pour l'humanité.
Groupes communautaires et syndicats dénoncent les politiques d'austérité de Québec.
On défend les locataires, il y a des groupes de femmes, il y a des groupes de personnes assistées sociales, des groupes de chômeurs. Tout le monde juge dans ces groupes. Tout le monde voit que les gens sont plus maganés. Les cas sont de plus en plus lourds, ceux qui viennent chercher de l'aide aux associations. On est vraiment dans une situation qui est critique, là.
Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, remporte son pari et obtient un troisième mandat majoritaire consécutif.
The people said yes.
Et on s'en va rêvasser un peu au Ciné-Club de Chéticamp qui œuvre à partager sa passion pour le cinéma francophone.
On avait aussi envie, je crois, d'apporter quelque chose de nouveau et de rafraîchissant à la communauté. Quoi de mieux que de faire, que de lancer un Ciné-Club avec des films spécialement franco-canadiens.
Bienvenue à Point de vue, l'info locale partout au pays.
Vous êtes à l'antenne de Point de vue. Écoutez tous nos reportages sur fréquenceinfo.ca.
Bonjour, bonsoir, merci d'être avec nous. Boris Chassagne qui vous accompagne pour la prochaine demi-heure en compagnie de nos correspondants postés à gauche et à droite du pays. On a quatre sujets pour vous aujourd'hui. Notre premier arrêt, on le fait au Manitoba, là où la Société historique de Saint-Boniface, la SHSB, a révélé que la forêt Lemay abrite des tombes non marquées liées à l'ancien asile Richotte. Cet asile, ouvert au début du 20e siècle, accueillait des orphelins, des mères célibataires et des personnes sans soutien. Selon les archives de la SHSB, 726 enfants ont été enterrés dans le cimetière de l'asile sur une période de 5 ans, entre 1907 et 1912. Depuis 2023, plusieurs membres de la communauté ont posé des questions sur l'histoire de cet endroit, explique Émilie Pigeon, directrice générale de la SHSB. Nos recherches, dit-elle, montrent qu'il est essentiel de préserver cette mémoire collective pour la communauté franco-manitobaine. Cette découverte a été faite alors qu'on annonce un projet résidentiel sur le site de la forêt Lemay, mais la Société historique de Saint-Boniface demande à ce qu'on mène des études plus approfondies sur le site avant que toute décision soit prise. La SHSB, qui souligne l'importance de protéger ce site patrimonial et historique pour les générations futures, le promoteur, quant à lui, assure qu'il va créer une zone tampon autour du cimetière et qu'aucun arbre n'y sera coupé. Gaël Mpoyo à Winnipeg.
Selon Émilie Pigeon, directrice générale de la Société historique de Saint-Boniface, cette découverte est essentielle pour préserver la mémoire collective de la communauté.
Alors, nous pouvons dire en définitive qu'il y a des registres de sépulture qui indiquent très clairement que 726 enfants ayant 16 mois ou moins, donc un an, 4 mois ou moins, ont été enterrés sur le site de ce cimetière. Dans ce cimetière, donc, à côté de l'asile Richotte. Ces sépultures ont eu lieu entre 1907 et 1912. Et la raison pour laquelle nous nous arrêtons en 1912 avec notre constat est parce que c'est pas spécifié ensuite. Donc, on a un registre de sépultures qui continue, mais ça ne spécifie pas où sont les enterrements. Ça dit simplement qu'ils ont eu lieu à Saint-Norbert. Alors, nous pouvons dire en définitive que ces enterrements, les 726 répertoriés, ont eu lieu dans le cimetière de l'asile Richotte. Et selon les sources historiques que nous avons consultées, nous savons qu'il y a eu des exhumations de ce cimetière en 1974, mais nous ne savons pas en définitive que ces enfants qui étaient ensevelis à l'asile Richotte ont été exhumés eux aussi. Donc, ils seraient toujours dans ce site, présumément.
Quelle était la mission de l'asile Richotte à l'époque et qui étaient les personnes hébergées dans cet établissement? Seulement les enfants ou?
C'était des enfants, c'était aussi des jeunes femmes ou des jeunes filles enceintes parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs familles pour qui une grossesse dans la famille d'une femme non mariée, c'était une once. Donc, on envoyait les femmes, les jeunes femmes, les jeunes filles à cet endroit jusqu'à ce qu'elles donnent naissance et ensuite leur bébé restait à l'orphelinat. Les jeunes filles repartaient ou travaillaient avec les sœurs, étaient appelées des madeleines et puis appuyaient donc l'institution à ce niveau-là. Parfois, c'était de leur propre gré, parfois non. Alors, c'est une histoire très complexe. C'est une histoire qui concerne vraiment, nous croyons, l'entièreté de la population de Winnipeg parce que selon les données démographiques recensées dans les registres d'admission de l'asile Richotte, c'est une population qui est... j'ai pas des données pour tous, bien sûr, c'est pas exhaustif, mais ce qu'on sait préliminairement, c'est que c'était une population diverse, mais surtout d'ascendance euro-canadienne. Alors, voilà ce qu'on a retrouvé jusqu'à date dans nos recherches.
Et pourquoi ces sépultures étaient-elles méconnues jusque récemment?
Ben, ces sépultures, la présence des sépultures était connue, mais c'était peut-être pas quantifié. Donc, selon nous, avec ce genre de sources, et moi je parle en tant qu'historienne, il faut faire une analyse quantitative totale de l'entièreté des registres pour en extrapoler des données, pour en extrapoler, dans le fond, des constats. Alors, c'est en faisant ce travail que nous nous sommes rendus compte que les discours publics à propos de ce qui se passe ou ce qui s'est passé à l'asile Richotte ne sont pas nécessairement ligne pas avec les sources dans nos archives. Alors, nous voulons simplement dire au public qu'il faut faire attention, que des recherches additionnelles sont absolument nécessaires de notre point de vue avant d'avancer des constats absolus sur ce qui a eu lieu.
Alors, Émilie, en quoi cette découverte est-elle importante pour la mémoire collective de la communauté franco-manitobaine?
C'est important parce que c'est la population francophone du Manitoba qui a beaucoup appuyé les ordres catholiques religieux qui ont ouvert et qui ont opéré ces institutions. Nous avons aussi censé, bien sûr, la présence de beaucoup de francophones parmi les enfants qui ont été admis à l'asile. Alors, c'est vraiment, il faut être conscient que lorsqu'on parle d'un projet domiciliaire ou quoi que ce soit, lorsqu'il y avait des restes humains, il va y avoir des conséquences avec les décisions que l'on prend aujourd'hui à ce niveau-là pour la mémoire collective dans le futur.
Et selon vous, quels sont les risques liés aux projets immobiliers proposés sur ces sites?
Ben, nous ne sommes vraiment pas experts à ce niveau-là. On peut simplement parler du fait qu'il y a une mémoire historique à ce site à préserver en tant que un organisme qui défend, bien sûr, et qui fait la promotion de la protection du patrimoine franco-manitobain. Il faut aussi constater que c'est une communauté franco-manitobaine qui a construit plusieurs monuments qui se retrouvent dans la forêt, comme par exemple des chemins de croix qui pourraient être démolis. Alors, lorsqu'on parle de démolir le patrimoine construit d'une communauté comme la communauté franco-manitobaine, il faudrait que la communauté franco-manitobaine, à mon avis, s'implique dans ce genre de décision.
Et y a-t-il de précédents à Winnipeg concernant la perte des sites patrimoniaux ou des cimetières à cause du développement urbain?
Bien sûr, on a par exemple ce qui est arrivé au cimetière devant la cathédrale de Saint-Boniface. Ça, c'est un exemple où ça a été réaménagé et puis il y a eu des exhumations. Il y avait aussi, par exemple, lorsqu'on retourne encore plus en arrière au Fort Garry, dans le centre-ville, maintenant, on a des marqueurs qui indiquent où étaient les murs du fort, mais c'est clair qu'il y avait aussi des cimetières pour ces forts-là. Donc, avec le développement urbain, c'est clair qu'on a décidé, la collectivité a décidé, dans le fond, de déplacer ces choses-là, de bâtir par-dessus. Mais en tant que société historique, nous voulons simplement faire un petit rappel aux gens que, bon, l'histoire, c'est important. Et puis, c'est l'histoire de la communauté franco-manitobaine. Et puis, il faut mettre ça en valeur.
Et Émilie, quelles seraient les prochaines étapes pour protéger la mémoire et l'histoire de ce site?
De notre point de vue, il faut continuer les recherches. Il faudrait vraiment avancer là-dessus. Les recherches qui ont été entreprises à date, de notre point de vue, n'ont pas été exhaustives. Donc, il s'agit de trianguler tous les registres que nous avons, d'avoir des données qualitatives et quantitatives solides afin de vraiment pouvoir déterminer ce qui a eu lieu à cet endroit. L'histoire aussi de l'asile en tant que telle est encore une histoire à écrire, c'est-à-dire quelles étaient les histoires des personnes qui ont passé à travers ce site-là, de celles qui en sont sorties ou de celles qui ont resté et qui y sont toujours. Alors, c'est un projet en cours.
Le projet immobilier proposé par Toshal Development Group vise à transformer la forêt Lémée en un ensemble résidentiel. Toutefois, cette initiative suscite de nombreuses inquiétudes. Des défenseurs du patrimoine et des citoyens réclament une protection accrue pour cette forêt en raison de son importance historique et culturelle. Winnipeg, Gaël Bouillot, pour IGL.
Bonjour, ici Vincent Lavoie à Miramichi, au Nouveau-Brunswick. Vous écoutez Point de vue. Des questions, commentaires ou suggestions? Écrivez-nous radio@frequenceinfo.ca, radio@frequenceinfo.ca.
Bon, vous suivez comme nous l'actualité internationale et vous savez que rien ne va plus. Les relations entre les États-Unis et l'Ukraine sont mises à mal. L'Europe, le Canada et le reste du monde s'en inquiètent. Et les Ukrainiens qui ont quitté ou qui ont dû fuir leur pays ont le moral très bas par les temps qui courent. C'est le cas d'Olena Kulik, une Ukrainienne qui vit à Hopetown au Québec. Hopetown, ville de l'espoir littéralement, est un tout petit village pendu à l'extrémité est de Basse-Pébiac au Québec. Olena Kulik vit au Canada depuis 28 ans. Elle se désole de voir l'état dans lequel son pays natal se trouve. Après 3 ans de guerre et les récents rapprochements entre la Russie et les États-Unis ne font rien pour la rassurer. Sa mère de 91 ans et elle ont décidé d'organiser une marche de 5 km entre la ville de New Carlisle et Passepébiac dans le but d'amasser des fonds pour venir en aide à leurs compatriotes. Plus de 1 500 $ ont jusqu'ici été envoyé à Zaporijjia, leur ville natale. Les précisions de Kevin Doyle à Carleton-sur-Mer.
L'Ukraine a toujours compté sur un appui indéfectible de la part de la communauté internationale, du moins une grande majorité qui s'insurge devant la brutalité avec laquelle la Russie s'est emparée de certains territoires du pays souverain. Voilà que depuis l'élection du président américain Donald Trump en novembre, que toute certitude semble s'évaporer, alors que celui-ci répète à qui veut bien l'entendre que l'Ukraine est à blâmer pour l'invasion russe, rajoutant que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est une sorte de dictateur. Les déclarations qui font sourciller Olena Kulik, elle qui a déjà vécu sous un régime autoritaire, invitent la population occidentale à ne pas prendre ses paroles à la légère.
Moi, je peux parler de ça parce que j'ai vécu dans le système autoritaire jusqu'à 28 ans et maintenant, ça fait 28 ans que je vis au Canada. Donc, j'ai vu les deux côtés et je sais que revenir en arrière peut être très pénible et très dangereux et je ne le souhaite pas à personne. Et aujourd'hui, c'est ça qui se passe au monde avec les montées des droites, avec Trump qui essaie de minimaliser la crime de la guerre que la Russie fait.
La coordonnatrice du comité Solidarité Ukraine Baie des Chaleurs, José Kaltenbach, estime qu'une dizaine d'Ukrainiens ont élu domicile en Gaspésie depuis le déclenchement de la guerre. Elle ajoute que le comité est prêt à recevoir une nouvelle famille si l'occasion se présente, malgré la fin des permis spéciaux octroyés par le gouvernement canadien au début de l'offensive russe.
Il faut savoir que les permis spéciaux que le gouvernement canadien avait donnés sont venus à échéance. Du fait que les gens qui peuvent arriver par le statut spécial que les Ukrainiens avaient au début de la guerre, il n'y a plus de permis qui sont donnés. Mais par contre, il y a des gens qui ont eu leur permis qui sont encore en Ukraine et qui pourraient peut-être vouloir venir là. Il y avait une famille qui était intéressée à venir s'installer. Le comité est prêt.
Olena Kulik espère que cette guerre ne sombrera pas dans l'oubli et que les gens vont continuer de supporter l'Ukraine.
Très important de montrer aux gens comme Poutine, comme Trump, qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres mondes qui vont débattre pour la liberté, pour la démocratie et pour l'humanité. Donc c'est très important de faire les actions, même si c'est les petites actions.
Un reportage de Kevin Doyle, IGL.
Kevin Doyle, qu'on salue, lui qui a choisi de nouveaux tracés pour sa carrière. On le remercie pour ses nombreuses contributions à l'initiative de journalisme local et à la radio de Carleton-sur-Mer pour laquelle il travaillait, Cieux FM. C'était un plaisir de tendre l'oreille à ce qui émane de cette communauté.
Vous écoutez Point de vue avec Boris Chassagne.
La guerre en Ukraine, le cessez-le-feu qui ne se matérialise pas, la crise diplomatique entre l'Ukraine, les États-Unis, le Canada et l'Europe, la guerre commerciale qui bat son plein, on peut dire que ça va mal, plus mal que d'habitude. Au cœur de ces bouleversements, les citoyens pris en étau, malmenés par les effets du protectionnisme, mais pas seulement. Au Québec, les mesures d'austérité budgétaire imposées par le gouvernement caquiste du premier ministre François Legault ont commencé à faire mal bien avant le déluge de mauvaises nouvelles internationales. Il y a quelques semaines du dépôt du budget printanier du gouvernement québécois, nombre de syndicats et groupes communautaires de la ville de Québec ont manifesté la semaine dernière devant l'Assemblée nationale. Dans un contexte d'austérité budgétaire et avec un déficit record en valeur absolue de 11 milliards de dollars, ces groupes s'inquiètent d'une détérioration accrue du filet social. Alice Zanetta nous a ramené ce qui suit.
Devant l'Assemblée nationale, groupes communautaires et syndicats de Québec sont venus dénoncer, à quelques semaines du dépôt du prochain budget, la politique d'austérité menée par le gouvernement caquiste.
Encore une fois, c'est des coupures sans égard aux services, sans égard aux personnes, sans égard aux travailleurs et travailleuses, sans égard aux conséquences. C'est un gouvernement qui ne regarde que des chiffres.
Avec un déficit record dans les finances québécoises, en valeur absolue de 11 milliards de dollars, les groupes s'inquiètent d'une détérioration accrue du filet social. Laurent Lévesque est l'un des co-porte-parole du regroupement d'éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, le REPAC.
Pas. Là, on juge sur les résultats parce que la CAQ, ça fait maintenant 7 ans qu'elle est au pouvoir, c'est sous 7 ans. Puis vraiment, les conditions des gens, là, ici, on est des groupes multisectoriels au REPAC, donc on défend les locataires, il y a des groupes de femmes, il y a des groupes de personnes assez sociales, des groupes de chômeurs. Tout le monde juge dans ces groupes, tout le monde voit que les gens sont plus maganés, les cas sont de plus en plus lourds, ceux qui viennent chercher de l'aide aux associations. On est vraiment dans une situation qui est critique, là. Puis là, on s'engage vers une nouvelle période de coupure qui pourrait être charnière, là. Il y a eu des coupes d'impôts majeures au Québec. Donc, le gouvernement s'est privé de revenus de 1,8 milliard. En plus des chèques de 500 $ qui ont été envoyés à la population, qui sont déjà bien oubliés, entendons-nous. Donc, là, après ça, le gouvernement s'étonne qu'on est en déficit.
Les restrictions budgétaires se font particulièrement sentir en santé, alors que le gouvernement Legault y poursuit des compressions de 1,5 milliard de dollars.
Oui, en fait, je viens d'énoncer les coupures en santé et services sociaux à cause des effets qu'elles ont là, sur la population, les inégalités qu'elles créent.
À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, l'IUCPQ, ce sont une dizaine de postes qui ont été coupés en décembre, dont des infirmières, une psychologue et une nutritionniste. La présidente de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux à l'IUCPQ, Sima Jalili-Chani, s'attend à ce que d'autres postes soient bientôt abolis.
On sent, ça crée parmi les employés un environnement anxiogène. On ne sait pas qui va être coupé, quels services seront touchés, l'impact que ça va avoir sur nos patients. Donc, c'est ça, c'est plutôt anxiogène.
Les politiques d'austérité font plus dire inégalités.
Politique d'austérité font plus d'inégalités.
Les politiques d'austérité font plus d'inégalités.
Appelez ça comme vous voulez, ça reste l'austérité.
J'ai des maillots de bain.
C'est pas ta volonté.
Elle
s'est dit,
pas ta
volonté.
Non, c'est ça, en plus, Marcella est comme, moi j'ai une définition de l'austérité, je suis comme, ah, oh, ouais. Mais là, ça va être libre choix.
Après la manifestation, le REPAC a organisé un panel au centre Frédéric Bac. Les intervenants ont évoqué les conséquences d'un prochain budget austéritaire sur différents secteurs, comme le logement, le transport ou les conditions des travailleurs.
L'austérité est vraiment présente, puis
faut la dénoncer. C'est pas une vue de l'esprit, là, puis ça fait mal, puis ça fait mal dès maintenant, puis ça fait pas mal dans les systèmes qui sont en santé. Les systèmes sont déjà malades, fait que l'austérité vient un peu placer le clou dans le cercueil.
François Proulx-Dupéré est secrétaire général du Conseil central de Québec, Chaudière-Appalaches.
Le gouvernement du Québec, le gouvernement de la coalition Avenir Québec, arrête de ne concentrer leurs efforts que pour le 1%, pour les patrons, pour les entreprises. C'est important qu'ils soient sensibles aux revendications des travailleuses et des travailleurs. C'est sûr que là, c'est l'avant-dernier budget avant le budget électoral de la CAQ. Fait qu'on voit qu'ils tirent très à droite, ça n'a plus trop quoi faire, sont en perte d'appui là, dans la population. On dirait qu'ils ne savent plus quoi faire. Ils se garochent de toutes les barres, puis ils font des mesures qui sont très impopulaires, notamment s'attaquer, comme hier, ça sort de nulle part, au droit de grève des travailleuses et travailleurs qui, pourtant, depuis l'arrêt Saskatchewan, depuis presque une dizaine d'années au Canada, est pratiquement devenu constitutionnel.
De son côté, la directrice d'Accès Transport Viable, Marie-Soleil Gagné, craint de ne pas voir d'investissements supplémentaires pour le transport en commun, surtout après la publication d'un audit de performance en fin d'année 2024 qui a été commandé par Québec et qui a conclu que les sociétés de transport québécoises pourraient réduire leurs dépenses de presque 350 millions de dollars.
Ce qui nous inquiète par rapport au budget provincial qui va être déposé en mars 2025, premièrement, c'est en termes d'infrastructures routières. Est-ce que le troisième lien va y figurer? Jusqu'à quel montant? Est-ce qu'on va se limiter uniquement à la planification ou est-ce qu'on va aller encore plus loin? Ça, c'est sûr que c'est une préoccupation parce qu'on sait que le transport routier représente encore aujourd'hui plus de 70 % du budget total du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Puis, à notre sens, surtout dans un contexte multicrise comme actuellement, il faut renverser ça. Malgré moi, j'ai envie de donner l'exemple ontarien qui est vraiment tout à fait le contraire. 70 % de leur budget total, ils investissent en transport collectif et 30 % en transport autoroutier. Donc, on demande sensiblement la même chose au Québec.
Le prochain budget québécois sera présenté en mars. Il comportera notamment un plan pour atteindre l'équilibre budgétaire d'ici 2029-2030. Alice Zanetta pour IGL à Québec.
Bonjour, ici Daniel Aucoin à Chéticamp en Nouvelle-Écosse. Vous écoutez Point de vue.
Eh bien, c'est fait. Les progressistes conservateurs de l'Ontario ont remporté leur pari et formeront de nouveau un gouvernement majoritaire en Ontario. Avec 80 sièges, le premier ministre sortant, Doug Ford, ajoute un troisième mandat consécutif à son palmarès. Le NPD, nouveau parti démocratique mené par Marit Stiles, conserve son rôle d'opposition officielle avec 27 sièges et le Parti vert est parvenu à faire réélire ses deux députés, dont le chef Mike Schreiner. Pour sa part, la chef libérale Bonnie Crombie a réussi à relancer son parti avec 14 sièges, même si elle n'a pas été réélue elle-même dans sa circonscription. Retour sur cette journée avec Gabriel Poulin à Ottawa, en Ontario.
Together we have made history. Together we have secured a strong, historic third majority mandate.
C'est ce que déclarait Doug Ford lors de son discours de victoire diffusé sur la chaîne YouTube du Parti PC de l'Ontario devant ses partisans réunis à Toronto le soir des élections provinciales du 27 février. Avec 80 sièges, soit un de plus qu'à la dissolution de l'Assemblée législative, le premier ministre sortant s'offre un troisième mandat majoritaire consécutif, une première en Ontario depuis plus de 65 ans. Dans son discours, Ford a mis l'accent sur son programme économique et ses promesses d'investissement massif en infrastructures, en particulier dans le développement des transports et la construction de logements.
This election, we ask the people for a mandate to make Ontario the most competitive place in the G7 to invest, create jobs and do business. The people said yes.
Dans un contexte de tensions commerciales croissantes avec les États-Unis, son pari d'organiser des élections anticipées a payé. L'opposition n'a pas réussi à inverser la tendance au cours de la campagne éclair de 28 jours, qui a coûté 189 millions de dollars. Le NPD a remporté près de deux fois plus de sièges que les libéraux, bien qu'il ait obtenu un tiers des votes en moins. Totalisant 27 sièges, le parti confirme ainsi son statut d'opposition officielle. Le soir des élections, la chef du NPD, Marit Stiles, s'est adressée à ses partisans.
Our job is to hold this government to account. With our usual fight and our determination, but also with love and hope and optimism.
Mike Schreiner, du Parti vert, a aussi été réélu, mais la chef libérale Bonnie Crombie n'a pas réussi à se faire élire dans sa circonscription de Mississauga East Cooksville. Malgré sa défaite, les libéraux de l'Ontario ont voté à l'unanimité pour la garder à la tête du parti. Avec 14 sièges, le Parti libéral redevient également une formation officielle à Queen's Park pour la première fois en 7 ans.
They said the Ontario Liberal Party was dead. Tonight, you prove them wrong. The Ontario Liberal Party is back to official party status, and that's a big milestone.
Selon Élections Ontario, le taux de participation de cette élection hivernale était de 45,4%, soit le deuxième plus bas dans l'histoire de la province. Gabriel Poulin, IJL, Ottawa.
Eh bien, heureusement, on peut encore avoir du plaisir quand on fait fi de ces grandes noirceurs politiques, et notamment en allant au cinéma pour rêver un peu. C'est certainement l'un des objectifs du tout nouveau Ciné-Club de Chétiquan qui va proposer à ses publics des films francophones de qualité et d'une grande variété de styles. Joanie Degrasse et Philippe Haché y voient une véritable opportunité de rassembler la communauté autour d'un intérêt commun pour le 7e art. Ces deux cinéphiles reconnaissent l'importance de créer des espaces de rencontre et d'échange dans la communauté. Pour sa toute première projection, le Ciné-Club a présenté le film québécois La Bolduc, ça c'était le 6 mars. Ce drame biographique porte sur la vie et l'œuvre de Marie Travers. Daniel Aucoin à Chétiquan, Nouvelle-Écosse.
Les cinéphiles francophones de Chétiquan vont pouvoir se réjouir. Plusieurs projections de films en français ont été programmées par le tout nouveau Ciné-Club de Chétiquan. Le projet a été mis en place grâce à une collaboration de 4 amateurs de films francophones de la région. Joanie Degrasse et Philippe Haché nous parlent ici des raisons pourquoi on a voulu mettre sur pied le Ciné-Club francophone de Chétiquan.
Ben, je pense que premièrement, il y avait vraiment énormément d'intérêt envers le cinéma de la part de chacun des membres du Ciné-Club. On avait aussi envie, je crois, d'apporter quelque chose de nouveau et de rafraîchissant à la communauté. Puis comme on a la salle au Conseil des arts, donc quoi de mieux que de lancer un Ciné-Club avec des films spécialement franco-canadiens, comme on essaie de se focusser vraiment sur les films de la francophonie canadienne, ce qui, en même temps, nous permet d'embrasser notre langue française.
Et eux mijotaient certaines idées, puis je pense qu'à un moment donné, on a commencé à faire un peu de remue-ménage de qu'est-ce qu'on aimerait voir comme projet de ciné-club, parce que faut pas oublier qu'à Chétiquan, on a déjà commencé un genre de ciné-club quelques années passées qu'on avait abandonné pendant la pandémie. On avait fait venir certains films pour enfants, puis on sait qu'avec les Chafraieux à l'école NDA, c'est quelque chose qui fonctionne quand même assez bien avec l'entrepreneuriat jeunesse en fin de soirée, avec des films francophones qui seraient peut-être plus adaptés pour les plus jeunes, si tu veux. Puis on s'était dit, ben regarde, essayons, on va s'essayer d'apporter des films francophones à Chétiquan, voir comment ça va. Puis je pense que le concept va être super le fun. Jeudi, c'est notre premier visionnement, donc je pense que je peux pas parler pour Joanie, mais moi, je suis super excité avec qu'est-ce qui s'en vient pour la communauté.
Ce jeudi soir 6 mars, le Ciné-Club de Chétiquan invite la population à sa toute première projection en l'honneur de la Journée internationale des droits des femmes. Le Ciné-Club présente La Bolduc, un film émouvant et inspirant qui rend hommage à l'une des plus grandes artistes de la chanson francophone canadienne, une véritable pionnière. Ici Daniel Aucoin pour IJL à Chétiquan.
Eh bien, c'est là-dessus qu'on conclut cette édition de Point de vue. Merci à nos journalistes Gaël Mpoyo, Alice Zanetta, Kevin Doyle, Gabriel Poulin et Daniel Aucoin. Merci à Julia Chénu, notre rédactrice nationale. Point de vue est une production du Fonds canadien de la radio communautaire et de l'initiative de journalisme local. Boris Chassagne avec vous à l'animation et à la réalisation. Merci d'être là chaque semaine. Vous voulez nous dire un mot? Eh bien, écrivez si ça vous tente. radio@fréquenceinfo.ca, radio@fréquenceinfo.ca. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.
Écrivez-nous radio@commercialfréquenceinfo.ca.